Vous écoutez RTL.
Il est 15h03 et vous êtes sur RTL, bien sûr. On est fait pour s'entendre avec Flavie Flamand.
Bonjour Flavie. Marie Guerrier. Marie, c'est à 16h que l'on vous retrouve, vous et l'actualité. En attendant, restez à notre écoute. À tout à l'heure, Marie. Que nous disent-ils ? Savez-vous communiquer avec les animaux ?
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver en ce vendredi pour une émission qui déjà vous passionne et parce que nous avons également une belle nouvelle à partager avec vous. Il y a deux semaines, souvenez-vous, je vous invitais à soutenir quelqu'un qu'on aime beaucoup dans cette émission et que nous avons reçu à plusieurs reprises. Il s'agit de Mathieu Dardaillon, c'est notre jeune entrepreneur préféré, fondateur d'une start-up qui s'appelle Ticket for Change, dont nous vous parlons souvent dans l'émission. Ticket for Change avait été sélectionné parmi près de 300 projets en France comme l'un des 10 projets les plus impactants et prometteurs. Il était finaliste du Google Impact Challenge avec à la clé 500 000 euros pour se développer. La finale a eu lieu hier soir à Paris et Ticket for Change a remporté la première place. C'est aussi donc grâce à vous. Alors merci, merci à vous et merci pour eux. C'est quand même bon de se réjouir du bonheur et de la réussite des autres. Allez sur ticketforchange.org et vous comprendrez mieux pourquoi nous les soutenons car ce sont des démarches en plus altruistes. Dans un instant, nous allons murmurer à l'oreille des animaux. Il ne leur manque que la parole, dit-on souvent au sujet des animaux. Pas toujours facile pourtant de les comprendre et d'entrer en lien avec eux. Alors comment communiquer avec les animaux? Que signifient leurs miaulements, leurs aboiements, leurs hennissements? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Alors j'en attendais deux, en fait ils sont trois. Hélène Gâteau, bonjour.
Bonjour Flavie.
Merci d'être avec nous Hélène, vous êtes venue accompagnée de
James, un petit bichon d'un an et demi.
Un petit bichon d'un an et demi que vous pouvez d'ailleurs voir sur rtl.fr. Il est plutôt mignon.
On
a l'impression qu'il a fait ça toute sa vie.
N'est-ce
en fait.
Pas, hein.
Alors Hélène, on vous connaît parce que vous êtes vétérinaire et présentatrice de l'émission Hélène et les animaux, diffusée tous les samedis à 15h10 sur France 5. Demain, le thème, ce sera communiquer autrement avec les animaux. Est-ce que l'on peut dire, alors que c'est votre spécialité, que vous en avez quand même appris beaucoup lors de ce tournage?
On en apprend toujours énormément parce qu'à chaque fois, je m'intéresse à des passionnés, à des gens qui ont une spécificité. Donc là, en l'occurrence, ce sont des éthologues dans l'émission qui va passer demain, donc des éthologues dans le comportement du cheval. Et du coup, j'ai appris énormément de choses sur l'approche que l'on peut avoir avec un cheval qui pèse beaucoup plus que nous, qui est une proie alors que nous sommes potentiellement des prédateurs. Et c'est incroyable la relation que l'on peut avoir quand on prend le temps de les comprendre et de les observer.
Alors, il en est un qui, à mon avis, est convaincu par ce que vous dites. C'est votre voisin, Marc Giraud. Bonjour, Marc.
Bonjour à toutes et à
Merci
tous.
Merci d'être venu. Vous avez une chemise avec des flamants roses. Est-ce que c'est fait exprès?
Non, comme j'aime pas les mauvais jeux de mots, j'ai fait un jeu de chemise.
Mais merci en tout cas de venir dans mon marécage.
C'est un hommage.
C'est une joie de vous recevoir. Vous êtes naturaliste, écrivain, chroniqueur. Et puis, cet ouvrage, Les animaux en bord de chemin aux éditions Delachaux et Niestlé. Alors, quand vous entendez Hélène Gâteau parler de ce temps de l'approche, de cette compréhension, de cette patience dont il faut faire preuve aussi à l'égard du monde animal, est-ce que vous êtes vous-même convaincu depuis longtemps?
Ça me parle parce que la patience, c'est un des mots clés. Et d'ailleurs, c'est très pédagogique pour les enfants de les emmener voir la nature. On parle d'équithérapie. Pour des enfants aussi, pour des cadres, par exemple, on les met avec un cheval et celui qui veut faire le coq, le macho, etc., il n'obtiendra rien du cheval. Alors que s'il écoute le cheval qui se met dans le temps de l'animal, là, il obtiendra tout. Monty Roberts, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, il disait, avec un cheval, si on s'y prend comme si on n'avait qu'un quart d'heure, il nous faudra une journée pour avoir quelque chose. Si on s'y prend comme si on avait toute la journée, un quart d'heure suffira.
On l'a compris et vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui des animaux, mais de notre façon surtout de communiquer avec eux, comment interpréter leurs réactions, leurs regards, leurs postures, leur façon aussi de s'exprimer. N'hésitez pas, 3210, les réseaux sociaux, vous le savez, vous avez la parole dans cette émission en direct sur RTL. On vous attend pour nous raconter ce que vous vivez avec vos animaux. On a compris qu'on a beaucoup à apprendre d'eux et ce sera l'objet de notre émission du jour. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Merci d'être avec nous. Merci aussi d'inonder les réseaux sociaux des photos de vos animaux, puisqu'aujourd'hui, on parle de communiquer avec nos animaux. Il y a Fabrice Olivier, par exemple, sur Facebook, qui nous a envoyé des photos de Kiwi, son petit perroquet, qui parle, qui sait dire lorsqu'il ne va pas bien, lorsqu'il a peur ou lorsqu'il est en colère. Ses yeux roulent et ses plumes se gonflent. Il ne faut donc pas l'approcher. Et puis, quand il veut un câlin, il vient sur nous. Quant à Coco, la petite perruche, il se montre peureux quand il ne voit pas son ami Kiwi. Il a également besoin de son petit tableau dans lequel il se voit. Et lorsqu'il veut sortir de sa cage, il tape sur les barreaux. Les animaux nous surprennent en permanence et aujourd'hui, on en parle aujourd'hui avec nos invités Hélène Gâteau et Marc Giraud. Marc, il y a un instant, vous expliquiez à quel point on avait besoin d'être en contact avec les animaux, avec la nature, et c'était peut-être aussi ce qui faisait qu'on avait cette humilité vis-à-vis d'elle et qu'on allait à la rencontre de ces animaux. Moi, est-ce que finalement, on n'est pas en train de se déconnecter de cet univers?
Mais on a perdu le sens de la nature et moi, je trouve que c'est un vrai drame, notamment pour les enfants, par exemple, qui sont beaucoup plus branchés sur leurs ordinateurs et qui sont complètement déconnectés de la réalité. Et il leur manque des choses. Il leur manque la patience, il leur manque aussi le sens de l'autre, le dialogue avec la différence. C'est très important. Il y a eu des études aux États-Unis qui ont montré que dans les familles où on maltraite les animaux, les enfants ont en plus tendance à être racistes. Donc c'est vraiment, c'est aussi la différence, parce que communiquer avec un animal, c'est parler une langue étrangère. Déjà, entre humains, avec un chinois, on dit c'est du chinois, on a beaucoup de mal alors qu'on est de la même espèce, mais avec un animal, on n'est pas très doué, à vrai dire. Je trouve que les animaux nous sentent beaucoup plus parce qu'ils décodent notre langage non verbal, alors que nous, on ne sait pas bien le faire.
Christian nous écrit, il faut leur parler français tout simplement comme on parle à un humain, parce que ceux qui ont eu ou ont des animaux savent bien qu'ils nous comprennent. Et avec leur regard ou leur façon de faire, ils savent nous faire comprendre s'ils veulent des câlins ou s'ils veulent manger. Ils savent également se faire comprendre lorsqu'ils sont tristes ou malades. D'ailleurs, ne dit-on pas, il a le regard triste comme un chien battu. Néanmoins, dans le document que l'on verra sur France 5 avec vous, Hélène Gâteau, demain, on se rend compte que la parole n'est pas si nécessaire.
Non, justement, quand on dit il ne leur manque que la parole, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette expression-là, parce que au final, les animaux, ils s'expriment d'une façon tactile, d'une façon visuelle, d'une façon sensorielle, des choses que nous, on est un petit peu nous noyés dans notre flot de paroles, et on en oublie bien peut-être justement une lecture un peu gestuelle, une lecture comportementale que eux, les animaux, ont, et justement qui faciliterait, je pense, notre approche avec le monde animal. Donc, pour moi, voilà, c'est plutôt se mettre au niveau de l'animal et ne pas essayer, eh bien, de lui apprendre. Quand on leur dit, je vous dis, il ne leur manque que la parole. Je suis vraiment pas du tout d'accord avec cette expression-là. Et au contraire, inspirons-nous du temps que eux prennent pour nous observer. Car c'est incroyable.
C'est vrai.
Le temps que passe notre chien, notre chat à la maison à nous regarder.
Ils ont rien de mieux à faire. Hein.
Mais c'est passionnant, surtout.
Ah bah oui. C'est passionnant. Et ils en savent beaucoup plus sur nous qu'on ne peut l'imaginer.
Marc ?
Oui, en fait, c'est ça, exactement. Il faut se mettre dans le monde de l'animal. On ne se rend pas compte qu'il vit dans un autre univers avec d'autres sens. Nous, on reconnaît notre chien à la vue et lui, il nous reconnaît au flair. C'est très, très différent. Une chauve-souris, ça voit avec les oreilles. Une mouche, ça goûte avec les pieds. Un papillon, ça sent avec les antennes. Donc, ils sont vraiment dans un monde. Si on ne tient pas compte de ça, on ne peut pas comprendre. Ils ne vont pas nous parler avec des paroles, justement. C'est vrai que c'est un mauvais adage. Ils vont nous parler avec leur sens à eux et il faut qu'on se mette à leur niveau. On se prétend les plus intelligents, alors faisons l'effort de parler leur langue.
Mais vous savez qu'à la radio, on voit avec les oreilles, vous avez parfaitement raison.
Oui, c'est vrai.
Nous aussi, on voit avec les oreilles.
Bonjour Michel, bienvenue dans On est fait pour s'entendre.
Bonjour Flavie.
Merci d'être avec nous. On est très heureux de pouvoir communiquer avec vous parce que vous nous accordez un petit peu de temps à nous aujourd'hui, parce que d'habitude c'est plutôt aux animaux que vous l'accordez ce temps précieux. Vous avez suivi une formation pour communiquer avec eux ?
Alors oui, j'ai suivi même plusieurs formations parce que c'était, comment dire, on a des choses qui arrivent comme ça et on ne sait pas trop l'expliquer. Donc j'ai voulu le refaire au moment où je le souhaite. Effectivement, ça fonctionne avec les sens.
Où avez-vous appris ça ? Comment ça s'est passé ? C'était un stage ?
Il y a des stages, il y a des formateurs donc qui proposent différents stages et en fait qui vous expliquent comment utiliser vos sens, donc visuel, auditif, olfactif, pour communiquer avec les animaux qui eux fonctionnent de cette façon, fonctionnent comme ça. Ils sont très intuitifs et effectivement, vous le disiez tout à l'heure, ils perçoivent les pensées, les sentiments d'une façon qu'on n'imagine pas, quoi.
À partir du moment où l'on comprend comment l'animal fonctionne, on rentre dans une forme de télépathie, dites-vous ?
Alors en fait, il suffit de se connecter à leur fréquence et de faire passer les informations de la même façon. C'est-à-dire que vous envoyez des images, vous envoyez des sons, des goûts, et eux, comme ils fonctionnent de cette façon, eh bien, ils vous renvoient la même chose. C'est un échange non-verbal.
Alors nous, on va rester sur la fréquence d'RTL, hein, 104.3, et puis on va vous retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, Michel. Vous allez nous expliquer ce que vous avez retenu de ces moments de communication avec les animaux. Surtout, vous ne bougez pas, et nous, on se retrouve dans un instant. 3210, les réseaux sociaux. À tout de suite, cette émission est la vôtre sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Célie sur Facebook, ma chienne sait très bien se faire comprendre juste avec ses yeux. Quand quelque chose ne va pas, je le sais immédiatement. Et puis Émilie, je vis avec 3 chiens d'âge et de race différents, 4 chevaux et un chat. À qui s'est observé, tout est possible. Je les comprends tous à travers leur regard, leur façon de bouger, leur mimique, leur bruit. Et d'ailleurs, on se comprend mutuellement. On est tous à l'écoute des uns des autres. On en parle aujourd'hui avec Michel, qui est toujours en ligne avec nous, qui est toujours sur notre fréquence. Michel, merci d'être là.
C'est moi qui vous remercie.
Alors, vous nous parliez donc de cette façon dont vous communiquez, vous, avec les animaux principalement domestiques, les chiens, les chats, les chevaux. On a vraiment le sentiment, quand vous parlez de télépathie, que vous êtes dans un exercice particulier, comme une sorte de mise en relation dans un état second, c'est ça ?
Alors, en fait, je dirais que c'est un état de relaxation. Et c'est une compétence que tout le monde a, en fait.
D'accord.
Oui, c'est un état de relaxation.
Voilà. Oui.
Qui permet justement d'accéder à leur monde, hein, d'être sur la même fréquence qu'eux, en fait.
Mais concrètement, comment faites-vous ?
Mais comme un état de méditation, de relaxation, voilà, d'être tranquille, d'être calme, et puis à l'écoute de l'animal avec lequel on veut parler ou on veut transmettre des choses. Donc être bien à l'écoute de ce qui nous arrive, donc que ce soit visuel, auditif, par le goût, le toucher aussi, ça peut être des frissons, des choses comme ça, ce que l'animal nous envoie. Et pareillement, si nous on veut lui transmettre quelque chose, on lui envoie ce qu'on veut lui donner, quoi, lui montrer. Et c'est un moyen qui est vraiment formidable pour justement, c'est un plus de compréhension, ça améliore la relation et ça donne accès à leur monde, en fait.
Hélène Gâteau.
Parce que,
oui, pardon. Je trouve que c'est très beau ce qu'elle dit, parce qu'effectivement, pour moi, pour mieux comprendre les animaux, il faut vraiment se mettre à nu et accepter, nous aussi, eh bien, de se départir de toutes les contraintes de notre vie, enlever
tous nos
smartphones,
codes.
Voilà, tous nos codes, se mettre à nu et puis arriver dans une relation d'égal à égal avec l'animal. Et j'ai l'impression que c'est ce que notre auditrice parvient à faire avec les animaux. Et comme elle le dit également très, très bien, c'est accessible à tout le monde. Pour peu qu'on prenne le temps, pour peu qu'on en ait l'envie.
C'est ça.
Et là, il se passe quelque chose de formidable avec le règne animal.
Qu'est-ce que vous recevez des animaux, Michel ? Qu'est-ce que vous avez appris d'eux ?
Alors, il y a plein de choses. Après, ça peut être très terre à terre aussi. Mais c'est souvent, ils ont un regard sur nous qui est parfois déstabilisant, parce qu'ils ont une vision de nous vraiment très claire, quoi. Que nous, on n'a pas forcément, ou que parfois, on ne veut peut-être même pas avoir. Donc, ils nous font voir des choses sur nous qui sont justes. Et voilà, on est parfois impliqué émotionnellement, donc c'est pas toujours facile à entendre. Mais parfois, ils ont de l'humour aussi. Enfin, voilà, ils ont plein de choses à nous montrer.
Vous avez le sentiment aussi qu'ils vous comprennent presque mieux parfois que vous-même, c'est-à-dire que on remarque que les animaux sont proches de nous, se rapprochent de nous lorsque l'on vit des moments difficiles. On se rend même pas compte qu'on est forcément dans le tourment, et pourtant on a un chat qui vient se lever contre nous, on a un chien qui vient poser sa tête sur nos jambes, et c'est peut-être dans ces moments-là aussi qu'on reçoit leur réconfort et qu'on se rend compte qu'on en avait besoin.
Oui, tout à fait. Oui, c'est comment dire. Presque des éponges quelquefois où ils sont là parce que justement ils sentent que c'est le moment où nous on a besoin, et justement ça donne plus de complicité et de respect aussi.
Marc, l'histoire du respect.
Oui, bien sûr, le respect de l'autre, comme tout à l'heure. Hein. Sur la communication intuitive, sur la télépathie, c'est des choses auxquelles on a du mal à croire. Moi, j'ai du mal à y croire. Mais j'ai participé à un tournage où Laila Del Monte, vous devez la connaître, qui est très très connue dans le monde entier, était venue dans un centre équestre. Elle débarquait de l'avion, elle ne connaissait personne. On lui a amené un cheval. Elle a dit, ce cheval a 3 cavaliers. Il y en a un qui est brutal, il me tire, là, je sens à droite, ça me tire. Et le moniteur était vraiment scotché. Il a dit effectivement, je connais ce cavalier, c'est un petit con, c'est un macho, etc. Et comme ça, et les chevaux les uns derrière les autres, elle a deviné des maladies, des choses. Et l'équipe de tournage m'a dit, mais il y avait aucun trucage possible à débarquer de l'avion. Donc c'est des choses qui sont troublantes. Je veux pas me plonger dans des choses mystiques, etc. Mais faut pas se fermer la porte sur des choses. Nous, on a de l'intuition. Moi, ça m'arrive d'avoir de l'intuition. Je sors de chez moi, je me dis, non, je rentre chez moi, je prends mon appareil photo. C'est une bonne journée. Et je sais qu'il fallait avoir mon appareil photo parce qu'il y avait un chevreuil au détour du chemin. Voilà. On a tous de l'intuition. On sait que quand quelqu'un va appeler au téléphone, on sait qui c'est, etc. Donc, faut pas se fermer à ces choses-là. Et les animaux sont très forts là-dessus parce que ça fait partie de leur monde aussi de passer par autre chose que par des paroles.
Ils sont presque moins détournés du monde qui les entoure que nous le sommes, nous, en fait, Marc.
Et ils sont dans le vrai, ils sont dans l'essentiel. Nous, on est complètement, encore une fois, déconnectés.
On est détournés.
Et le langage ne nous aide peut-être pas, d'ailleurs.
Distrait, oui, exactement. Peut-être que le langage nous
le
éloigne.
Le mot est réducteur.
Oui, je suis d'accord. Michel, je vous remercie pour votre témoignage, en tout cas.
C'est moi qui vous remercie.
Et puis, je sais que vous allez rester à notre écoute jusqu'à 16h, et bien au-delà,
oui, bien sûr,
évidemment. Et puis, alors, figurez-vous que cette semaine, à l'occasion de son anniversaire, le réseau de parfumerie Institut Beauty Success et RTL font des cadeaux à ceux qui interviennent sur l'antenne. Et tant mieux, je dirais même à celle, puisque vous allez recevoir un généreux panier beauté d'une valeur de plus de 100 euros. Donc vous serez canon quand vous communiquerez avec les animaux. Et dans le panier, vous allez retrouver des bougies, des gommages pour le corps, du vernis à ongles, des masques pour la peau. Enfin bref, voilà, il est parti, il va arriver jusqu'à vous. Merci d'être intervenu sur cette antenne.
C'est très gentil, merci.
On vous embrasse, à bientôt Michel, au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 16h, la vie flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Avant de parler avec Max sur cette antenne, un message qui nous est arrivé d'Élise. Ma mère m'a toujours raconté cette histoire lors de vacances aux Antilles, alors que beaucoup de monde nageait avec des dauphins. Bizarrement, ils sont tous venus autour d'elle comme pour la protéger. En sortant de l'eau, le moniteur lui a dit que les dauphins avaient sûrement détecté un deuxième battement de cœur. Ma mère a rigolé car elle pensait que c'était une blague. À son retour en France, elle apprenait qu'elle était enceinte de moi. On en parle aujourd'hui avec Hélène Gâteau et Marc Giraud. Marc Giraud, quand vous entendez cette histoire des dauphins, ça vous surprend ?
Pas du tout. Non, parce que les dauphins, comme les chauves-souris, ils envoient des ultrasons de l'écholocation. Donc, ils scannent leur environnement. Ils vous font une radio de vous-même. Donc, s'il y a le moindre embryon, ils le savent. Et ce n'est pas la première à dire ça. Les dauphins savent quand une femme est enceinte avant elle-même. Donc non, ça ne m'étonne pas. Ça fait partie des choses extraordinaires de l'ordinaire.
Quels sont les autres animaux, justement, qui déploient de tels dons d'acuité ?
Alors, on parle de sixième science, mais il y en a plein. Le requin, par exemple, il a un sens électrique, il perçoit les pulsations électriques. Nous, on a tous de l'électricité. Là, moi, quand je vous parle, ça me fait de l'électricité.
Vous
qui m'écoutez, etc. Voilà, absolument. Donc, eux,
on va finir par court-circuiter, Marc.
Voilà.
Attention.
Hein. Bah, attendez, je vais vous parler des paranoptiales tout à l'heure.
Ah oui, j'espère. J'espère. Et donc ?
Et donc, ben voilà, je suis tout troublé maintenant.
Ben oui, moi aussi.
Et ben, le requin a plein de sens de l'électricité de ses proies, c'est-à-dire que même quand elles sont cachées, il perçoit leur activité. Et d'ailleurs, en parlant d'électricité, il y a des poissons électriques qui communiquent par l'électricité. Ils s'envoient des coups de jus. Ils font des parades, justement, nuptiales à coups de ils brament, mais avec de l'électricité. Donc, les mâles dominants envoient des petits coups de jus d'avertissement aux dominés pour les calmer, etc. Et tout ça, c'est avec des sens qu'on ne devine même pas. Quoi.
C'est passionnant quand même, hein, cette communication entre les animaux et cette communication que l'on peut aussi établir avec les animaux, que l'on oublie parfois. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il faut juste prendre le temps parfois de se poser et de les observer. Si vous le voulez bien, on va accueillir Max sur cette antenne. Max, bonjour, bienvenue sur RTL, merci d'être avec nous. Max,
allô,
Max,
oui,
Max.
Bonjour.
Allô Max, ça va Max ?
Oui, très bien. Merci beaucoup.
Ben, merci à vous surtout de venir sur cette antenne pour nous parler de vos 140 moutons.
Voilà, c'est ça. Moi, en fait, voilà, je suis éleveur. Dans un petit village de Dordogne. Là, on est quoi ? On est 250 habitants à tout casser. Je suis donc je suis passé en bio depuis l'année dernière. C'est vrai que la bio amène à... je suis pas là pour faire la promotion de l'agriculture biologique ou intensive ou enfin au-delà de ça, peu importe, voilà, bio ou pas, à un moment donné on est éleveur et c'est vrai que des fois en tant qu'éleveur on n'est pas toujours bien perçu, enfin j'ai souvent ce sentiment là. C'est pas évident à... même si voilà, effectivement on va pas se mentir, je fais de l'agneau de boucherie, etc.
Ça ne vous empêche pas, voilà, ce que vous voulez nous expliquer, c'est que même si vous êtes aujourd'hui éleveur et que vous travaillez sur les terres agricoles, ça ne vous empêche pas d'être en contact avec ces animaux et de pouvoir établir une véritable communication.
Pour revenir vraiment au sujet de l'émission, quelles que soient les fins du travail qu'on fait, il y a, moi, voilà, j'avais envie d'intervenir en tant qu'éleveur, il se passe quelque chose, quoi.
Qu'est-ce qui se passe, clairement, justement, avec ces fameux moutons ?
Je ne veux pas rentrer, comme disait votre... Je suis désolé, je n'ai pas tous les noms et les prénoms en tête.
Marc et Hélène.
Votre invité tout à l'heure. Je ne veux pas rentrer dans le mysticisme, mais il se passe clairement quelque chose avec les animaux, quoi.
Qu'est-ce que vous voyez, vous ?
Moi, voilà, je citais au standard tout à l'heure l'exemple typique de la période des mises bas. Donc, on en revient à la naissance. Voilà, on est sur des sentiments aussi très féminins et comme ça. Il se passe vraiment, il y a des moments où, enfin voilà, moi ça me mettrait la larme à l'œil, quoi. Le dernier moment le soir où je vais passer nourrir, je vais revenir jeter un coup d'œil avant de passer à table. Et puis en fonction de ce qui s'est passé, il y a des lectures dans le comportement, dans le regard, comme ce que vous disiez tout à l'heure. Mais c'est presque flippant à certains moments, quoi. Parce qu'on a bien conscience qu'il se passe quelque chose, mais on est incapable de l'expliquer. Oui, encore une fois, c'est pas du mysticisme, hein, c'est vraiment du vérifier sur le terrain. Et ça, c'est particulier. Je vais venir jeter un petit coup d'œil le soir avant de dîner, par exemple, là, pendant la période d'hiver, en période de naissance. Bon, tout va bien. Hop, tout de suite, on va en voir une qui va faire les 100 pas. Qui reste un peu dans son coin, on va tout de suite déceler un regard différent. Bon, je vais prendre le temps de dîner, je reviens une heure après. Ah ben là, clairement, vous en trouvez une qui va être couchée dans un coin. Là, vous pouvez être sûr qu'elle va pas tarder à mettre bas et puis elle vous cherche du regard. Mmh. Alors ça, j'y ai été confronté pas plus tard que l'hiver dernier. Là, ça va démarrer dans un mois de plus. Où vous arrivez, il y a cette espèce de réflexe. Le troupeau, il me voit, je suis le nourrisseur. Voilà, il y a un côté, effectivement, je vais amener le grain, je vais amener le foin, donc ils ont tendance à abeiller un petit peu, à se manifester. C'est, on va dire, c'est le jeu normal. Mais si on tend l'oreille, déjà, avant d'arriver, vous tendez l'oreille entre un agneau qui cherche sa mère. On décèle des comportements avant même de voir ce qui se passe, en fait, rien qu'à l'oreille. Et après, on arrive sur place, vous avez une brebis qui va pas tarder à mettre bas, elle vous cherche du regard. Et une fois que vous arrivez, donc ils sont 140 ensemble, hop, il y en a une, elle vous capte le regard, mais direct. Il y a un échange, ça dure 2 secondes. Vous sentez qu'il y a, je vais pas dire un appel à l'aide, on est déjà dans le sentiment humain. J'aime bien faire la part entre l'animal domestique, l'animal de compagnie et l'animal d'élevage, mais il y a des sentiments qui sont quand même très proches. Moi, c'est quelque chose qui me... Ouais, là, c'est des émotions qui sont très fortes. C'est arrivé pas plus tard que l'année dernière, le soir de Noël, voilà, la famille, petit apéro, petit repas et tout. Puis je mange mon bout de bûche vite fait, et puis je dis... Là, tout à l'heure, quand je suis allé nourrir, il y en a une, j'avais un doute, je pense qu'elle va pas tarder. Et je retourne là, bah, il devait être minuit et demi, 1h du matin, quoi, hein, quelque chose comme ça. Je vais jeter un coup d'œil avec ma lampe électrique, et là, paf, elle, pour moi, alors c'est peut-être une espèce d'ego ou de... Mais pour moi, clairement, elle attendait le nourrisseur, quoi. Et là, j'arrive, et c'était pas du nourrisseur dont elle avait besoin, elle avait mangé à sa faim, déjà. Mais elle me cherchait du regard. Et je me suis approché, etc. Effectivement, elle allait pas tarder à mettre bas. Et effectivement, le bébé se présentait mal. Alors du coup, on s'improvise vite, un peu vétérinaire, un peu obstétricien. Oui. Enfin, faut jouer sur tous les plans. Ça, c'est super difficile, quoi.
Oui, c'est vrai.
Et là, il y a un vrai échange dans le regard. Et tout à coup, quand on cherche à s'en approcher, à l'attraper, ben, elle s'en va pas. Elle vous attend.
Oui.
Elle sait qu'on va l'aider. Enfin, on a ce sentiment-là, en tout cas.
Je comprends. En tout cas, vous le racontez très, très bien, Marc.
Et c'est empreint de plein d'émotions. Et j'avais juste envie d'ajouter un dernier truc. Je sais que le temps d'antenne doit être partagé sur beaucoup de monde.
Vous avez compris.
Mais c'est difficile de mettre des mots sur tout ça.
Je comprends.
Il y a aussi cette idée, juste pour finir là-dessus, que ça, on l'apprend pas.
Non. On va pas l'apprendre en passant un bac agricole, on va pas l'apprendre. Moi, j'ai repris l'exploitation familiale, et quand je questionne mon père qui a travaillé 40 ans là-dessus, pareil, à se lever la nuit, à aller vérifier, à avoir un sentiment, un doute, un machin, bon, mais je me pose pas la question, je prends la lampe, je vais à la bergerie, je vais voir ce qui se passe, faut être sur place, quoi.
Et c'est la transmission que vous êtes en train de nous expliquer.
C'est très précieux. Et justement,
Max, la prochaine fois, vous viendrez au 22 rue Bayard, et vous viendrez faire l'émission avec nous, d'accord?
Juste pour finir, c'est quelque chose qui peut pas
super
transmettre,
vite.
Il faut le vivre. Il n'y a pas de mots pour le dire. Et mon père n'a pas pu me transmettre ça. Il fallait qu'il se passe 3-4 saisons pour que je comprenne.
On vous embrasse fort, Max.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Julien qui vient de nous envoyer un tweet avec l'image d'un très joli chat d'ailleurs, noir et blanc, miaou miaou Max, traduction super témoignage Max. Max, on vient de l'entendre sur l'antenne d'RTL il y a un instant, qui nous racontait ces fameuses nuits et cette fameuse nuit de Noël justement où le petit mouton est arrivé. C'était très étonnant, Hélène Gâteau, parce que Max, on ne vous connaît pas, hein, on vous a entendu sur l'antenne, mais on vous imagine voilà, vous êtes éleveur, on vous imagine gaillard, aimer un gaillard, plein de cœur et d'émotion, en fait, Hélène Gâteau.
C'est ce qu'on a tous ressenti, effectivement, c'est cette hypersensibilité qu'a Max quand il parle de ses animaux. Et dans le cadre de l'émission Hélène et les animaux, eh bien, c'est vrai que j'ai rencontré énormément de passionnés qui s'occupent d'espèces complètement différentes, et ils ont tous justement cette hypersensibilité à fleur de peau. Ils ont une humanité, c'est amusant, hein, oui, parce que finalement les gens qui s'occupent d'animaux ont une humanité encore plus importante que des gens qui n'en ont que faire du règne animal. Et ça, c'était vraiment très visible dans le témoignage de Max. Et j'ai eu la chance d'accompagner un troupeau de brebis lors d'une transhumance. J'étais avec deux bergers, il y avait 450 brebis. Ils connaissaient, ils savaient identifier chacune de leurs brebis. Donc c'est pour dire à quel point les éleveurs connaissent leurs animaux mieux que personne.
Et les aiment.
Quand on dit, bon, bah, ils les emmènent à l'abattoir, ils les aiment pas, etc. Ben, non, c'est pas vrai. On peut pas dire ça. On peut pas leur infliger cette insulte presque à ces gens qui consacrent leur vie à l'animal.
Mais là, on parle pas des fermes aux 1000 vaches ou de ce genre de choses où l'éleveur ne touche ses animaux qu'une heure par an et encore.
On les oublie.
Lui, il est dans le bio, il est dans le vrai.
Évidemment. Marc, on a entendu aussi dans le témoignage de Max cette phrase qui revenait comme un leitmotiv. Elle me cherchait du regard.
Oui.
Alors qu'elle elle allait mettre bas. C'est fou. En même temps, cette communion est presque cet appel à l'aide dont il nous parlait.
Absolument. Les animaux sont vulnérables. Enfin, les animaux domestiques, ils savent que c'est nous qui apportons la nourriture. On est des sortes de parents symboliques, je sais pas, mais ils savent qu'on a du pouvoir. Donc, moi, j'ai eu un cheval, par exemple, qui était malade, il me suivait partout d'une manière très, très poignante. Et comme ils n'ont pas la parole, justement, tout est dans le regard. Et ils ne peuvent pas s'exprimer avec les mots. Donc, ils somatisent beaucoup plus que nous. Nous, ça libère la parole. Eux, ils n'ont que ça. C'est du concentré d'émotion, les animaux. Et le regard peut suffire à raconter plein de choses.
Même les animaux sauvages peuvent se tourner vers l'homme quand ils sont en difficulté.
Oui, sur Facebook ou sur les réseaux, on voit quelquefois un renard malade qui vient voir des touristes, etc. Parce qu'il a compris que c'était la dernière solution, ou des oiseaux qui viennent l'hiver, qui rentrent dans la maison. Les animaux savent d'instinct qu'on peut les protéger.
On va accueillir Laurence maintenant sur cette antenne. Bonjour Laurence, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Laurence, vous comprenez lorsque l'on parle des animaux en souffrance qui se tournent vers l'homme ?
Ah, tout à fait, oui. Parce que j'ai eu un chien hyperactif et un chat diabétique. Donc, j'étais un peu déstabilisée au début quand la maladie s'est présentée. Et puis, au fur et à mesure que mes animaux avaient besoin de moi, j'ai appris, en fait, à déchiffrer leur langage corporel, leur bien-être, leur mal-être. Et franchement, ça a été une révélation par rapport au langage que pouvaient avoir les animaux et par rapport à leur intelligence.
On parlait il y a un instant du monde sauvage. Cet été, vous avez pu secourir un oiseau.
Tout à fait. J'ai secouru un oiseau. Je me promenais, je suis photographe. J'étais en bilbaude dans un pré et je suis tombée sur un merle adulte qui était dans le champ. Et il m'a semblé ne pas aller bien du tout. Et je pense que c'était à cause de la sécheresse. Il n'y avait pas d'eau, pas de nourriture. Et je me suis approchée, il s'est laissé attraper sans trop de résistance. Je l'ai emmené à la maison, donc il n'était pas du tout enfermé. Hein. Il pouvait partir absolument comme il voulait. Et en fait, il restait à côté de moi. Je lui ai donné à boire, à manger. Il m'a mangé dans la main et il est même venu faire la sieste sur mes genoux. Voilà. Et il était libre de partir à tout moment. Il a repris des forces. Je l'ai gardé à la maison en liberté la nuit. Et le lendemain matin, il est reparti un peu comme il était venu, quoi. En meilleure santé, en ayant repris des forces.
Je vous remercie de nous avoir éclairé justement de ces belles expériences, Laurence. Et puis, je sais qu'aujourd'hui, vous n'avez plus d'animaux, mais en revanche, vous en gardez pour les autres. Et visiblement, ils sont très bien chez vous. Donc, comme quoi, quand on aime les animaux, on a du mal à s'en passer.
Mais on ne peut pas s'en passer, ça c'est sûr.
Alors, on vous envoie à vous aussi un joli panier beauté d'une valeur de plus de 100 €. C'est Beauty Success et RTL qui vous offrent ce joli cadeau. Paf, je l'envoie et paf, vous allez le recevoir.
Merci beaucoup,
je vous souhaite un bon week-end, Laurence. Merci.
Bon week-end à vous aussi.
Pour votre écoute, au revoir.
Vous écoutez RTL.
RTL. Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
Figurez-vous, Marc Giraud, que Jean-Sébastien Petit-Demange d'RTL nous envoie un tweet en demandant quelles sont les bêtes sur votre chemise.
C'est
visiblement
terrible.
Ça suscite pas mal de questions.
Oui.
Donc on répond à
tout
le monde.
Donc,
ce sont des flamants roses. Voilà. Merci
clin
en
d'œil.
Tout cas d'être avec nous. Clin d'œil. Également en compagnie d'Hélène Gâteau. On parle donc de cette communication que nous avons avec les animaux. On parle beaucoup du regard depuis le début de l'émission. On a bien compris qu'effectivement, les animaux pouvaient nous faire passer n'importe quoi avec ce fameux regard. On dit bien, effectivement, des yeux de chien battu. Néanmoins, ça n'est pas le seul moyen pour eux de communiquer, Hélène.
Non, il y a le regard. Il y a aussi l'attitude corporelle que peut avoir un chien ou un chat qui peut nous en dire beaucoup sur son état, sur ce qu'il veut nous faire passer comme message. C'est des choses vraiment qu'on peut apprendre à lire. Alors attention après de ne pas faire trop d'anthropomorphisme.
C'est important.
Non plus, ça c'est important. Hein, le fameux regard de chien battu ou le regard pour je me sens coupable, etc.
L'humain à la place de l'humain, l'animal à la place de l'animal.
Exactement Flavie. Et c'est vrai qu'il faut faire attention à toutes ces dérives-là, même s'il faut garder toujours une part d'anthropomorphisme dans le sens où l'animal, on le sait, c'est un être qui est doué de sensibilité et c'est important. Il a des sentiments, il souffre.
Ben, on est issu des mêmes processus évolutifs. On a beaucoup de points communs. C'est pour ça que l'anthropomorphisme, c'est presque instinctif. D'ailleurs, eux, ils font du humanomorphisme. Mm. Quand un chien garde son vieil os tout baveux et veut pas nous le donner,
oui, bon,
nous, on
en
a rien à faire.
Veut pas,
ben voilà. Mais lui, il croit qu'on le veut. Donc, il nous prête des sentiments canins, lui.
C'est vrai. On va revenir sur la communication sonore et notamment les miaulements des chats. Vous nous livriez hors antenne quelque chose de très intéressant, Hélène Gâteau.
Oui, eh bien, c'est à quel point nos animaux de compagnie se sont finalement habitués à l'humain.
Oui.
Le chat, par exemple, a une gamme de miaulements, de 16 miaulements différents, le chat domestique, alors que le chat sauvage n'a pas toute cette gamme. Et c'est une gamme qu'il a développée justement au contact de l'humain pour se faire mieux comprendre et puis pour exprimer son besoin, sa lassitude, son énervement. Donc les animaux, finalement, ils se sont énormément adaptés à l'humain, beaucoup plus que nous nous sommes adaptés à eux. Donc c'est une véritable leçon qu'ils nous font, le chien
et
le chat.
Et nous avons sélectionné les animaux qui communiquaient le mieux. Et en fait, les chats adultes ne miaulent pas entre eux. Donc, ils ne miaulent vraiment que pour nous. Ils nous parlent pour nous. Et il y a des éthologistes italiennes qui sont aperçus que le miaulement du chat et le cri du bébé humain, c'est quand même très étrangement proche. Et d'ailleurs, le chat se fait avoir. On entend un enfant qui miaule, j'allais dire. Le chat dresse l'oreille. Hein.
C'est vrai ce que vous dites. Oui. Et c'est fou comme les animaux aussi perçoivent la vulnérabilité des enfants et des tout petits êtres.
Ça les interpelle beaucoup.
Oui, ça les interpelle. Et puis, il y a un sentiment de protection aussi. Oui. On voit des chiens, d'ailleurs, qui surveillent des enfants au bord d'une piscine. On voit des chats qui vont, effectivement, voir dans les berceaux. C'est vrai qu'il y a une sensibilité à notre monde aussi, à nous.
Et puis, il y a des sentiments universels. Donc, l'instinct parental, on a le même. On parlait de mise bas ou d'accouchement. On vit les mêmes choses.
Dites donc, tout à l'heure, Marc, vous m'avez fait une promesse. Vous parlez
de paradoxal.
Mais oui, c'est ça. Vous parlez de mise à bas et de naissance. Alors, avant les naissances, il faut bien aussi faire une parade nuptiale. Il faut bien se draguer. Comment ça se passe dans le monde animal?
Eh ben oui, c'est une grosse partie de leur vie, quand même. Une fois que la survie est assurée, les oiseaux qui chantent, en général, c'est sexuel, hein. C'est les mâles qui lancent un cri qui veut dire en même temps aux autres mâles, vole à l'ombre, casse-toi de là, c'est chez moi. Et en même temps, aux filles, ça veut dire, venez, j'ai un beau champ, je suis de la même espèce que vous et j'ai un beau territoire. Donc, le chant des oiseaux, c'est quand même très, c'est de la parade, hein.
La couleur aussi, non?
La couleur indique la santé, évidemment, et les gestes de la parade, c'est une sorte de code entre les deux individus pour reconnaître qu'ils sont de la même espèce, parce que sinon ils peuvent se planter, hein. Donc c'est des animaux qui sont sauvages, qui n'ont pas l'habitude du contact, donc ça les rassure, et en même temps ça synchronise maîtrisent leur cycle biologique pour qu'ils arrivent, oui, en même temps au moment de l'accouplement. Donc c'est très important de parader. Les préliminaires, faut pas les oublier.
Le brame.
Ah bah le brame, c'est
stimule,
en ce moment.
Ça stimule l'ovulation de la femelle.
Oui, absolument. Il y a des études anglaises qui ont montré ça. Ça, c'est vraiment le crooner des forêts, parce que faut dire que la femelle est réceptive quelques heures dans l'année, donc il a pas intérêt à ne pas être là. Donc il s'entraîne beaucoup.
La fenêtre de tir, ne surtout
voilà,
pas.
Voilà, c'est ça.
Hélène Gâteau, on vous retrouve donc demain sur France 5. Ce sera à 15h10. Communiquer autrement avec les animaux. On voit, il y a énormément de sujets sur le monde du cheval, hein, évidemment. Parce que c'est vrai que vous êtes allé à la rencontre d'éthologistes, au contact des chevaux. Néanmoins, on voit aussi des agriculteurs français avec leurs vaches
qui communiquent et qui chantent pour leurs vaches. C'est ce qu'on appelle le dariolage. C'est un chant vendéen ancestral, effectivement, pour faire avancer les bœufs, les animaux de labour dans les champs. Il y avait une sorte de compétition aussi à l'époque entre les deux éleveurs de champs voisins. Et c'est une tradition qui se garde. Et ces éleveurs-là, eh bien, m'ont confié que ça leur permettait vraiment de rentrer en contact et de communiquer avec leurs bœufs dans les champs.
Et ce que l'on comprend aussi en voyant votre reportage, c'est à quel point on en retire quelque chose. Et les uns et les autres. Les animaux y gagnent, mais les humains y gagnent aussi terriblement. Et on se ressent une émotion parfois dans certains moments très très forte, comme si cette relation-là était sacrée et unique.
Oui, mais je vous dis, c'est ça. C'est cette hypersensibilité que les gens qui vivent et qui se laissent aller au contact des animaux peuvent développer. Et on a tous intérêt à y aller. Aujourd'hui, on est déconnectés de la nature, mais il faut reconnectons-nous. Je pense que Marc et moi,
on
est
interconnectés.
On est un peu des exemples, mais... On est bien, Marc.
Moi, je suis très à l'aise. Oui.
La baladothérapie, ça veut dire, Marc, que vous considérez
que ça fait du bien aller dans la nature. Ça stimule les défenses immunitaires, ça rend serein, c'est une vraie séance de yoga, je conseille à tous.
Vous reviendrez nous voir, et l'un et l'autre, pour parler des comportements précis des animaux.
Chiche.
Hein, c'est-à-dire, le défi sera relevé prochainement. Et effectivement, j'inviterai nos auditeurs à nous poser des questions quand un chat a les oreilles couchées ou une queue dressée. Enfin bon, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça n'est pas qu'une question de parade nuptiale. Les animaux en bord de chemin, absolument. C'est votre ouvrage, Marc Giraud. Et puis surtout, ne ratez pas également, communiquer autrement avec les animaux, ce sera demain à 15h10 sur France 5. Merci à vous deux.
Merci beaucoup.
Merci à nos invités. Très belle chemise, Marc Giraud. Et moi, dans un instant, je vous parle du programme de demain.
Vous écoutez RTL.
Alors, le programme de lundi, je ne sais pas pourquoi je ne veux pas être en week-end, moi. N'oubliez pas surtout le Grand Studio Humour demain avec Régis Maillot, Jean-Yves Lafesse et Oldelaf. Ce sera donc à 15h sur RTL. Nous, on se retrouve donc lundi pour percer le mystère de nos maux de tête. Est-ce que l'automédication est une bonne chose? Quelles sont les causes des maux de tête à répétition? Peut-on les prévenir? Ce sera lundi à 15h en direct sur RTL. Tout de suite, voici Laurent Ruquier, les grosses têtes. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à lundi.
Vous écoutez RTL.